La doctrine du Nouveau Testament sur le Saint-Esprit. Auteur, William Kelly. Méditation 10, Apocalypse chapitre 1 verset 4 et 5, et chapitre 19 verset 10. L'espèce sous lequel la vérité nous est présentée par le Saint-Esprit dans le dernier livre du Nouveau Testament, contraste avec le témoignage des Épîtres. Aussi, avant de commenter ces versets de l'Apocalypse, nous examinerons brièvement la manière dont le Saint-Esprit est présenté dans les Épîtres, manière qui est toujours et entièrement déterminée par le but de celle-ci. Dans les Romains, après avoir proclamé la ruine de l'homme et la justice de Dieu, l'apôtre en vient à la justice pratique qui répond dans les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit prend sa place en rapport avec l'une et l'autre. Quand cette question de la justice est entièrement éclaircie, il peut être fait librement mention de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, chapitre 5 verset 5. Le Saint-Esprit est ensuite manifesté comme une puissance qui non seulement remplace celle du péché, mais se substitue à la loi, laquelle ne donne à des êtres tels que nous aucune capacité pour accomplir la justice, chapitre 8. Ainsi d'une part la question entière de nos péchés et du jugement de Dieu contre eux, d'autre part, celle du péché et de la délivrance du péché, ont été complètement résolues avant que l'Esprit de Dieu soit lui-même introduit. Il n'était pas convenable de présenter l'œuvre qui doit se poursuivre dans le croyant, avant que Dieu ait été montré pleinement satisfait dans la rédemption et la résurrection de Christ. Mais c'est dans le chapitre 8, c'est-à-dire quand non seulement le sujet de nos péchés, mais celui du péché ont été épuisés, que l'apôtre s'engage dans une ample exposition doctrinale, la doctrine de l'Esprit envisagée à la fois comme condition, comme état du chrétien, et aussi comme personne qui demeure dans le croyant. Dans la première épître aux Corinthiens, le Saint-Esprit nous est présenté sous un aspect tout à fait différent, et avec une plénitude remarquable. Ce qui avait donné lieu à l'apôtre de l'écrire, c'est la manière dont la chair était à l'œuvre dans l'église de Corinthe, où elle opérait sous toutes les formes possibles, excepté le légalisme. On y était trop relâché pour aimer la loi, mais l'état charnel de ces chrétiens était tel qu'il n'y avait aucune puissance dans la loi pour y remédier. La loi ne peut que condamner celui qui est charnel. Christ seul peut remédier à un mal pareil, comme à tout autre mal, l'efficacité de son œuvre étant appliquée à la conscience par la puissance du Saint-Esprit. De là vient que nous trouvons dans cet épître la sagesse de l'homme jugé d'abord par la croix, chapitre 1, et ensuite supplanté par les communications de l'Esprit de Dieu, chapitre 2. Celui-ci donne la vérité, les paroles qu'il exprime, enfin la capacité de les recevoir et de les comprendre. Il est donc évident que les Corinthiens, qui, dans l'espoir de rendre l'évangile plus agréable à la chair, voulait introduire quelque sagesse humaine, était complètement en défaut, et, de fait, en opposition avec la pensée de Dieu. Le chapitre 3 montre comment le Saint-Esprit a constitué les croyants en un temple de Dieu, et la sérieuse responsabilité qui en découle pour eux de n'y rien faire entrer qui soit incompatible avec cette présence. Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Verset 17. Mais à supposer même qu'un homme ne corrompe pas le temple de Dieu, dans toute la force du mot, s'il y introduit des matériaux sans valeur, tout son travail sera perdu et brûlé. Quant à lui personnellement il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Figure bien instructive, impliquant le jugement de Dieu sur l'œuvre de chacun, quoique l'homme lui-même puisse échapper. L'application suivante, est bien solennelle, de ce don du Saint-Esprit, concerne le corps du croyant, chapitre 6. Ce n'est plus seulement le fait que les chrétiens constituent ensemble le temple de Dieu, mais que le corps de chaque chrétien est son temple. Les Corinthiens étaient tombés dans une erreur grossière qui s'est perpétuée de nos jours, à savoir que, pourvu que nous soyons intérieurement dans un bon état, ce qui affecte le corps est sans conséquence. Ne soyons pas trop difficiles, disent ces personnes, le corps n'est qu'une enveloppe charnelle dont nous n'avons pas à nous préoccuper. Ce qui compte, c'est l'homme intérieur, la santé morale de l'âme. Pas du tout, répond l'apôtre, le Saint-Esprit se plaît à habiter dans le croyant et fait son temple, non pas de l'âme, mais du corps. Si le corps est consacré au Seigneur, s'il est mis dans un état de séparation par la puissance du Saint-Esprit, tout ira bien pour l'âme. Au reste, les raisonnements de ceux qui disent mépriser le corps servent souvent d'excuse pour s'adonner librement à la sensualité, en faisant taire la conscience et en cultivant même des pensées d'orgueil. Il est évident que Dieu ne peut qu'avoir en horreur de tels sentiments et le comportement qui en est la conséquence. Vous avez été acheté à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du chapitre 12, le Saint-Esprit est considéré dans l'Église. D'abord comme opérant par le moyen des dons qui ont été départis aux divers membres du corps. Puis, au chapitre 14, en rapport avec l'exercice de ces dons dans l'assemblée. Nous y trouvons l'ordre selon Dieu, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles un don est appelé à s'exercer. Autrement dit encore le principe important que la possession de la puissance du Saint-Esprit n'exempte aucun chrétien de l'autorité du Seigneur par sa parole. Mieux encore, c'est le Saint-Esprit qui, employant cette parole, agit sur la conscience du chrétien pour lui dicter l'usage qui doit être fait de sa puissance. Quelqu'un aura beau alléguer qu'il a reçu une parole de Dieu et qu'elle doit être prononcée, il doit se taire si elle n'est pas à sa place. Telle parole peut véritablement provenir du Seigneur. Mais Dieu tient à l'ordre dans sa propre maison, et la puissance reçue ne dispense nullement de la responsabilité personnelle dans l'exercice des dons. La parole seule, non pas l'esprit, est la pierre de touche, comparée 2 Timothée chapitre 3. C'est là une vérité inestimable, car la tendance des hommes qui croient réellement à l'action de l'Esprit de Dieu est de soumettre plus ou moins la parole à l'Esprit, au lieu de reconnaître ce qui est si clair dans l'Écriture. À savoir que le Saint-Esprit soumet toujours ses propres manifestations à l'autorité de la parole du Seigneur, parole qu'il a lui-même inspirée. La seconde épître aux Corinthiens nous montre le cher apôtre consolant les saints qui avaient été abaissés. Lui-même avait subi une terrible persécution, mais en était sorti. Il affirme que toutes les promesses de Dieu en Christ sont oui et amen en lui, à la gloire de Dieu par nous. Chapitre 1 verset 20. Quelques-uns lui avaient apparemment reproché de ne pas avoir mis son projet de visite à exécution. Ces tergiversations convenaient-elles à un apôtre? On s'en était servi pour mettre en cause son autorité. Si je n'ai pas tenu ma promesse, répond-il, Dieu tient les siennes dans l'Évangile. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui et en lui l'amen, à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. C'est précisément ce qui a lieu dans les voies de Dieu avec l'âme, et tout est ici présenté d'une manière et dans un ordre admirablement complet. Le croyant est établi par Dieu en Christ. Ceci naturellement suppose qu'il est d'abord vivifié de la vie de Christ. De ce premier privilège découlent les autres, car Christ donne force et plénitude à cette vie que possède le croyant, et qui est la sienne. Puis le racheté est déclaré oint, car le Saint-Esprit est la puissance pour lui faire connaître toutes choses selon Dieu. Vous avez une onction de la part du Saint, est-il dit même des petits-enfants, en 1 Jean chapitre 2. Ainsi, immédiatement après que le racheté est établi en Christ, l'onction est mentionnée, cette bénédiction par laquelle l'Esprit ouvre les yeux du croyant et lui donne puissance pour voir et comprendre avec une capacité nouvelle et divine. Enfin, l'Esprit scelle le croyant sur la base d'une rédemption accomplie, et devient pour lui les arts d'un héritage futur. Dieu nous a scellés, et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Chapitre 1 verset 22. Arrivons maintenant à un autre passage, celui d'Éphésiens chapitre 1 verset 12 à 14, où se trouve la même double pensée. Le Christ, en qui vous aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage. Vous observerez que l'apôtre parle de l'Esprit Saint sous deux points de vue, et en rapport avec les deux principaux sujets qu'il a présentés dans ce chapitre. L'un est l'appel du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'autre l'héritage. Le Saint-Esprit agit en nous en rapport avec les deux. Relativement à l'appel de Dieu, il scelle le croyant, et relativement à l'héritage, il est les arts dans nos cœurs. Dans le premier cas, il est la puissance d'une séparation consciente pour Dieu sur le terrain de ce qui est maintenant achevé. Et ainsi, vous remarquerez que dans ce même verset il dit, « Ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut ». C'est seulement sur cette base que le Saint-Esprit prend une telle place dans le croyant. Il scelle la personne de celui qui se repose sur la rédemption, et devient les arts de l'héritage de la gloire que nous partageons avec Christ. Ce sujet présente souvent des difficultés pour l'esprit des enfants de Dieu. Sous une forme ou sous une autre, c'est le légalisme qui est ordinairement le grand obstacle à une saine intelligence de la doctrine du Saint-Esprit. L'Esprit est la puissance de sainteté dans le croyant, comme la loi était la force du péché pour l'homme placé sous elle. La loi avait affaire avec la chair, le Saint-Esprit habite maintenant où est la nouvelle nature. En commençant son œuvre, il trouve une âme qui est absolument sans vie aucune à l'égard de Dieu. Elle ne possède rien d'autre que la nature déchue, jusqu'à ce que, par la foi en Christ, la nouvelle nature lui soit communiquée. La foi en la parole rattache l'âme à Christ. Une vie nouvelle qu'elle ne possédait pas lui est conférée. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit, Jean chapitre 3 verset 6. De même que la chair vient de la chair. Mais le sceau de l'Esprit suppose une chose sainte déjà existante, à savoir les saints comme ils sont en Christ. Il est évident qu'il ne peut y avoir de sceau sur la vieille nature. Le Saint-Esprit scelle cette nouvelle nature, ou plutôt la personne vivifiée. Il serait inconvenable et choquant de penser que le Saint-Esprit puisse apposer son sceau sur la chair ou la vieille nature. Vivifier suppose une absence de vie. Mais sceller implique de plus qu'il existe quelque chose à sceller qui est selon Dieu. Le sceau de l'Esprit n'est pas imprimé simplement sur la vie, quoiqu'il la suppose toujours, mais il suit la réception de l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Ceci montre que les saints avaient déjà cru et que le sceau était une action subséquente du Saint-Esprit sur leurs âmes. En somme, les hommes ne sont pas scellés comme incrédules, ce qui serait, si elle était possible, la chose la plus misérable. Ils sont scellés comme croyants, de même qu'ils ont d'abord été vivifiés comme morts dans leurs péchés. La question du temps qui s'écoule entre croire et être scellé est d'une importance secondaire, mais la distinction des deux actes est au contraire de toute importance. N'y aurait-il qu'une minute d'intervalle, ils sont cependant distincts, et le sceau suit la foi. L'incrédule a besoin d'être vivifié, le croyant d'être scellé. Ne pas reconnaître que ces actions sont distinctes et successives, c'est aussi s'exposer à confondre la condition des saints de l'Ancien Testament avec le christianisme. Sans aucun doute, le Saint-Esprit s'occupait des âmes anciennement, elles étaient vivifiées et croyantes, mais elles n'étaient pas scellées et ne possédaient pas les arts de l'Esprit. Pourquoi cette différence? Parce que sous l'Ancienne Alliance, l'évangile du salut n'était pas encore la base connue et publique pour la bénédiction de l'âme. Celle-ci se trouvait en quelque sorte dans une condition d'attente, ne jouissant pas d'une pleine communion avec Dieu dans la paix et la délivrance. Le christianisme a amené cela et davantage encore. Christ est venu. Il a accompli la rédemption, et le Saint-Esprit, envoyé maintenant du ciel, nous apporte non seulement des promesses, car à elles seules les promesses ne sont pas le christianisme, mais les promesses pleinement vérifiées en Christ. Quelques-unes sont futures, et, sans doute dans ce sens, elles ne sont pas encore accomplies, par exemple la résurrection du corps et le déploiement de la gloire. Néanmoins l'Écriture nous révèle maintenant un salut actuel non plus promis, mais prêché dans l'Évangile comme une chose accomplie. N'avoir qu'une simple espérance de Christ correspond à la condition de ceux qui se trouvent toujours sous la loi. Ils soupirent constamment après le salut, la paix ou une part en Christ. Cet état était normal dans l'Ancien Testament, et personne ne possédait de titre pour aller au-delà. Le Messie n'était pas venu, ni l'œuvre accomplie, aussi croire plus que la révélation d'alors eût été du mysticisme, et non la vérité de Dieu. De l'imagination, et non la réalité. Mais maintenant l'œuvre est accomplie. Le pardon n'est plus une promesse, mais un fait actuel, et la vie éternelle, tout en étant à venir, est une possession présente. Le salut est déjà la portion du croyant, Éphésiens chapitre 2, si complet que celui-ci est déclaré ressuscité avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. À un autre point de vue, nos corps doivent être changés plus tard à la ressemblance de son corps, et, dans ce sens-là, le salut n'est pas encore venu. En conséquence, nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu prend une relation nouvelle ou un nouveau mode d'action conforme à ce développement des voies de Dieu et de la révélation de la pleine bénédiction. Dans ce qui intéresse l'âme, le salut est déjà parfait. Le Saint-Esprit dans ses relations avec elle maintenant en est le messager et celle la personne de celui qui croit à l'Évangile. Le sceau suppose, non plus seulement une nouvelle naissance, mais une rédemption complète, et suppose que l'œuvre de Christ est connue. Nous-mêmes ne scellons pas une chose avant qu'elle ne soit achevée. Personne ne penserait à sceller une lettre avant qu'elle ne soit écrite. De même l'acte du sceau, appliqué par le Saint-Esprit, indique clairement que celui qui est scellé repose sur une base complète et certaine. Par rapport au présent, le Saint-Esprit scelle donc pour le chrétien le salut qu'annonce l'Évangile. Par rapport à l'avenir, nous l'avons vu, il est un gage de l'héritage. Le chrétien, objet de l'amour de Dieu, jouit d'un salut tel que Dieu lui-même ne peut pas le rendre plus parfait. Mais il ne possède pas encore l'héritage, et le Saint-Esprit, au lieu de lui en présenter simplement une promesse, lui en donne un avant-goût. Il permet à l'enfant de Dieu d'anticiper la joie et la bénédiction de son héritage, bien qu'il séjourne encore dans le monde. C'est à ce titre qu'il en est appelé Lézare. Aux Galates, l'apôtre avait posé la question, « Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi ?» Chapitre 3 verset 2. Ces croyants, quoique séduit par les judaïsants, savait bien que les œuvres de la loi n'étaient pour rien dans le don du Saint-Esprit, ni non plus dans l'opération de miracles parmi eux. Chapitre 3. Une expression du chapitre 4 est plus explicite encore, quant à la distinction qui nous occupe. Alors que son peuple était sous la loi, Dieu a envoyé son Fils, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant, « Abba, Père !» Galates chapitre 4 versets 4 à 6. Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui nous donne conscience de la relation avec Dieu qui nous appartient déjà par la foi en Christ. Déjà ils étaient fils, parce que vous êtes fils, affirme Paul. Ils pouvaient cependant ne pas connaître la jouissance de cette relation. C'est pourquoi Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans leur cœur, criant, « Abba, Père !» La signification et la force de ce passage sont aussi claires que possible. Sous la loi, le croyant, quoiqu'enfant, n'a jamais eu conscience de son adoption. Sa condition était celle de serviteur, quoique seigneur de tout, comme l'apôtre l'explique. Pourquoi? Parce que dans la première période, il était sous la loi. Il ressemblait à un mineur sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père, chapitre 4 verset 2. Il était tenu en esclavage sous les principaux du monde. La loi le châtiait, lui faisant sentir la méchanceté et la rébellion de sa nature. Tout cela a continué sous le système légal. Mais maintenant est venu un état de choses entièrement différent, comme l'apôtre le montre ici. Ainsi l'épître aux Romains nous a appris cette grande vérité du christianisme, que, quant à la chair, j'ai le droit, je suis même tenu de la considérer comme morte. Je ne suis jamais appelé à mourir à la chair. Une pareille idée, courante chez les mystiques, n'est nullement la vérité révélée en Christ. Sans doute sommes-nous invités à mourir d'une manière pratique à nous-mêmes et au monde, à mourir tous les jours. Mais c'est une toute autre pensée qui signifie s'exposer continuellement pour Christ à l'épreuve et à la mort. Par contre, quant à la chair, j'ai le droit, par la grâce de Dieu, d'affirmer que je suis déjà mort, et je suis appelé à me considérer désormais, et pour toujours, comme mort. Le mysticisme est un effort pour devenir mort en soi-même, et cela sonne bien, mais la grâce divine me donne le droit, qui est celui de Christ lui-même, de croire à la puissance de sa mort pour moi, et de ma mort avec lui. En sorte que je puisse sans présomption me tenir pour mort au péché, mais vivant à Dieu par Jésus-Christ. Romains chapitre 6 verset 11. L'épître aux Romains nous a donné cet enseignement en rapport avec la justice. Mais l'exemple choisi ici par l'apôtre est en contraste avec le système légal de contraintes qui réglait, sous la loi romaine, la situation des mineurs. La rédemption nous a amenés, par la foi en Christ, à la position de fils, et nous avons l'esprit du Fils de Dieu, donné comme puissance, par lequel nous crions, Abba, Père. Telle est la connexion du Saint-Esprit avec la doctrine de cet épître. L'objet de l'ennemi était de détourner les croyants de la liberté dans laquelle ils avaient été placés par l'affranchissement, et de la relation bénie de fils devant leur Dieu et Père. Pour les ramener sous les ordonnances de la loi sous une forme ou sous une autre. Le Saint-Esprit est la puissance libératrice qui nous est donnée, fondée sur la rédemption par Christ et en lui. En revenant à l'épître aux Éphésiens, nous constatons qu'il n'y a pas un seul chapitre qui ne fasse une ou plusieurs allusions au Saint-Esprit. Dans le témoignage du chapitre 1 et du chapitre 2, le Saint-Esprit est envisagé comme la puissance d'accès auprès du Père, tant pour le juif que pour le gentil. À la fin du chapitre 2, il nous est présenté comme la puissance constitutive de l'habitation de Dieu. Cette habitation de Dieu dans l'Église n'est pas extérieure comme en Israël, et sa présence n'est pas signalée comme autrefois par une œuvre nue et visible, mais elle est bien plus réelle, par le Saint-Esprit qui habite là. Au chapitre 3, l'Esprit n'est pas seulement une puissance révélatrice pour éclairer l'intelligence, comme au chapitre 1, mais aussi une source intérieure pour rendre plus profonde la communion spirituelle du chrétien et fortifier son homme intérieur selon toutes ses richesses qui sont en Christ. Dans le chapitre 4, la doctrine de l'Esprit de Dieu est largement développée, en relation avec le corps, aussi bien qu'avec les dons individuels. Par-dessus tout, dans la dernière partie du chapitre, il est fait allusion à lui comme à la puissance active et la mesure personnelle de sainteté dans la marche. Ce qui est convenable au nouvel homme, ce n'est pas simplement de faire ceci ou cela, mais de ne pas attrister cette personne divine par laquelle nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas assez de savoir comme vérité le vieil homme jugé et le nouvel homme donné, mais l'Esprit de Dieu est en nous et nous devons veiller à ne l'attrister d'aucune manière. Le chapitre 5 nous fournit une autre et très intéressante allusion au Saint-Esprit. Nous n'y sommes pas seulement appelés à résister aux excitations charnelles, mais à être remplis de l'Esprit, et en connexion avec cela, à nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantant et psalmodiant de notre cœur au Seigneur, verset 19. Remarquons à ce propos l'absence dans le Nouveau Testament de louanges ou de cantiques de circonstances tout préparées à l'usage des enfants de Dieu. À la différence du juif, le chrétien ne dispose pas d'un recueil de psaumes, d'hymnes ou de chants spirituels écrits par inspiration. Le juif avait besoin que de telles louanges fussent préparées pour lui. Le chrétien non, car ayant le Saint-Esprit comme le juif ne l'avait pas, l'enfant de Dieu possède intérieurement une abondante source propre à le faire chanter dans son cœur. À l'Église, qui a le Saint-Esprit toujours présent et habitant en elle, appartient la source de l'eau vive. Plus encore, chaque chrétien possède individuellement cette source qui d'une manière naturelle jaillit en psaumes, en hymnes et en cantiques spirituels. Ainsi cette absence d'un recueil de cantiques inspirés et de prières préparées, qui sert de prétexte à certains pour mettre à la place des liturgies ou pour retourner aux psaumes de David, constitue en réalité la preuve la plus éclatante de la bénédiction actuelle de l'Église de Dieu. Ce qui manque, hélas, aux chrétiens, c'est la foi pour se servir de leur bel héritage. Ceux qui sont sous la douloureuse expérience de la loi n'ont aucune source de joie en eux-mêmes. Ils ont donc besoin d'une provision extérieure. Mais, du moment que nous avons Christ et, de plus, le Saint-Esprit comme puissance divine pour jouir de notre Sauveur avec notre Dieu et Père, s'aurait été abaisser la place de l'Église si la parole avait fait pour nous une provision de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels. La Sainte Écriture considère le chrétien comme étant arrivé à l'état d'homme fait, et suppose l'Église, à moins qu'elle ne soit égarée par des séducteurs, dans une position de pleine liberté devant Dieu. Dans l'intelligence de sa pensée et la confiance de son amour, entrant dans les richesses de sa grâce et de sa gloire en Christ. Et cela, parce que le Saint-Esprit habitait dans le chrétien et dans l'Église. En sorte que la conscience d'une telle bénédiction s'exprime non seulement dans la louange, mais dans l'édification mutuelle par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du cœur au Seigneur. La seule allusion à l'Esprit de Dieu qui reste encore à examiner dans les Éphésiens se trouve dans le dernier chapitre, où nous sommes exhortés à prier par l'Esprit. Priant toujours avec toute prière et supplication par l'Esprit, Verset 18. Le Nouveau Testament ne parle jamais de la prière à l'Esprit, mais par l'Esprit. Il n'en résulte pas que l'Esprit ne soit pas digne de louange et de prière. Qu'il ne soit pas Dieu également avec le Père et le Fils. En fait, la prière à Dieu s'adresse au Saint-Esprit en même temps qu'au Père et au Fils. Mais il a plu à l'Esprit, depuis la rédemption, de prendre une place qui empêche que des prières lui soient spécialement adressées. Il habite en nous, et s'adresser à l'Esprit serait, sans en avoir la conscience, ne pas croire à son habitation dans l'Église et dans le croyant. Sans nous arrêter au passage de moindre importance qui, dans les Philippiens, parle de l'Esprit par rapport à son caractère plutôt que comme personne habitant en nous, c'est-à-dire comme la source de la communion et du caractère du culte. Chapitre 3 verset 3. Observons l'omission remarquable de toute mention de l'Esprit de Dieu dans l'Épître aux Colossiens. Celle-ci met l'accent sur la nouvelle vie, alors que l'Épître aux Éphésiens, qui présente beaucoup d'analogies avec celle aux Colossiens, le place sur le Saint-Esprit, source de cette vie. Il va sans dire que chacun de ces points de vue est en rapport avec le caractère respectif des deux épîtres. Dans les Thessaloniciens, le Saint-Esprit est présenté avec une simplicité et une force extraordinaires, et cela depuis la conversion de ces croyants jusqu'au bout de leur carrière. Chapitre 1 verset 5, chapitre 4 verset 8, et chapitre 5 verset 19. Les textes ne demandent guère de remarques, excepté peut-être le dernier qui est souvent mal compris, « N'éteignez pas l'esprit ». Cette exhortation n'est pas à confondre avec celle d'Éphésiens chapitre 4 verset 30, « De ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu ». La tristesse est évidemment personnelle. Tandis que l'éteindre est en rapport avec d'autres, et principalement, je suppose, dans l'usage de leurs dons. Je ne dois pas être une entrave pour un autre, ni élever des difficultés quant à la manifestation du Saint-Esprit dans aucun frère. Telle œuvre peut être grande ou au contraire très petite, la seule question est-elle de l'Esprit ? Avoir du respect pour la présence et l'opération du Saint-Esprit selon toutes les variétés de son action dans l'Église, garderait le frère le plus en vue d'éteindre l'esprit dans celui qui l'est le moins. Certainement Dieu ne méprise pas le jour des petites choses, Zacharie chapitre 4 verset 10. Dans les deux épîtres à Timothée, il est constamment question de l'esprit. Arrêtons-nous à 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu, dit l'apôtre, ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, et d'amour, et de conseil. Voyez aussi verset 14. Il n'est pas difficile de voir pourquoi le Saint-Esprit est ainsi mentionné à cette place. Timothée tremblait devant les difficultés de la lutte chrétienne, devant cette tristesse et cette épreuve dans lesquelles le service de Christ, plus particulièrement au milieu des assemblées, conduit le serviteur fidèle. C'est pourquoi l'apôtre lui rappelle le don qui lui avait été accordé par l'imposition de ses propres mains, et ajoute que l'esprit qui nous est donné, à nous autres chrétiens, n'est pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Notons la distinction entre le don communiqué à Timothée par l'imposition des mains de l'apôtre, et le caractère général de l'esprit donné aux saints. Il est clair que le but de ce rappel était de fortifier l'homme de Dieu craintif. Pourquoi aurait-il été surchargé de tristesse par les difficultés, les dangers, les désappointements, ou même la défection de ceux qui avaient autrefois travaillé avec l'apôtre lui-même, et qui maintenant s'étaient tournés contre lui? Dans l'Épître à Tite, nous avons un riche passage exposant la bénédiction dans laquelle le christianisme introduit une âme, chapitre 3 verset 4 à 7 et suivant. Mais, Quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d'œuvres accomplies en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde. Par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Ici, nous avons non seulement le lavage de la régénération, privilège commun à tous les saints de toutes les époques, mais elle nous est donnée sous la forme et la plénitude qui maintenant sont la part distincte du chrétien. La régénération est universelle et propre à tous les saints. Mais la riche effusion du Saint-Esprit résulte de la rédemption. Il a été répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi le passage montre d'une manière bien frappante à la fois ce qui est et doit toujours être vrai, et ce qui ne devint possible, selon les voies sages de Dieu, que lorsque l'obstacle eut été ôté, la chair jugée, et que le Saint-Esprit put être répandu richement, par Jésus-Christ notre Sauveur. L'Épître aux Hébreux contient plusieurs allusions à l'Esprit. Nous retiendrons deux expressions, l'Esprit de grâce, et l'Esprit éternel, qui toutes les deux désignent le Saint-Esprit en contraste avec le système juif. L'Esprit de grâce, chapitre 10 verset 29, est en contraste avec la loi, et l'Esprit éternel, chapitre 9 verset 14, avec les voies temporaires des temps anciens. Nous arrivons ensuite en 1 Pierre chapitre 1 à un passage de grande importance pour le croyant. L'apôtre y parle du salut dont les prophètes se sont enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Nous avons là un énoncé clair de l'œuvre de l'Esprit de Christ dans l'âme des anciens prophètes. Il était en eux sous le caractère d'esprit de prophétie pour rendre témoignage de ce qui allait arriver, à savoir les souffrances qui seraient la part de Christ et les gloires qui suivraient. Nous ne savons pas dans quelle mesure ils comprirent ces vérités, et purent en jouir, mais l'une et l'autre furent placées devant eux. Les psaumes en parlent, puis les prophètes, tout particulièrement Ésaïe, Michée, Daniel et Zacharie. Mais de plus, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncées par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoyé du ciel. Christ étant venu et la rédemption étant accomplie, l'Évangile est maintenant annoncé. De ce fait, le Saint-Esprit prend une place toute nouvelle. Il est envoyé du ciel, expression qui n'a encore jamais été employée jusque-là au sujet de l'Esprit. La mission du Saint-Esprit, envoyée du ciel, est évidemment distincte des opérations de l'Esprit de Christ dans l'Ancien Testament. Quelque bénie qu'elle fût, c'est le Saint-Esprit descendu du ciel qui constitue la puissance du croyant pour entrer dans ce qui est maintenant annoncé par l'Évangile. Reste encore, pour une époque future, l'accomplissement de la prophétie, quand le royaume sera établi en puissance et en gloire ici-bas. En résumé, ce passage contient trois pensées principales. Premièrement, le Saint-Esprit prophétisant. Secondement, la jouissance présente d'un salut d'âme proclamé par l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. En troisième lieu, la révélation de la grâce à l'apparition du Christ, qui sera l'accomplissement des prophéties. Une œuvre puissante a été faite, et, sans aucun doute, la prophétie s'applique à cette œuvre, quoique cette dernière aille bien au-delà de ce que la prophétie a révélé. Finalement, le plein accomplissement de la prophétie est réservé pour l'apparition du Seigneur en gloire. Entre les deux époques, Après la venue de Christ pour souffrir, mais avant son apparition en gloire, le Saint-Esprit est envoyé du ciel. Et nous jouissons, dans la foi, par sa puissance, de ce que l'Évangile annonce au sujet de Christ. Il n'est pas nécessaire de nous arrêter à 2 Pierre, où la seule allusion au Saint-Esprit concerne les saints hommes de Dieu de l'Ancien Testament qui parlèrent sous son influence, chapitre 1 verset 21. 1 Jean développe le sujet du Saint-Esprit en nous, par lequel Dieu demeure en nous et nous-mêmes demeurons en Dieu. Nous arrivons ainsi à l'Apocalypse. Dès le premier chapitre, l'Esprit de Dieu nous y est présenté sous un aspect entièrement nouveau, au point que plusieurs commentateurs anciens ou modernes ont nié que la mention des sept Esprits de Dieu puisse désigner le Saint-Esprit. Et ont appliqué la phrase aux sept anges qui se tiennent devant Dieu, Apocalypse chapitre 8 verset 2. Or on ne peut douter qu'il ne s'agisse ici de la même puissance spirituelle septuple dont parle Ésaïe chapitre 11 verset 2 et 3. L'Apocalypse ne s'occupe nullement, dans ses visions prophétiques, des sujets ordinaires du Nouveau Testament, et c'est ce qui explique le style propre à ce livre. Allant traiter non pas du déploiement de la grâce mais du gouvernement de Dieu, l'Apocalypse est remplie d'allusions à l'Ancien Testament. Personne ne comprendra ce livre s'il n'a pas les voix anciennes de Dieu présentes à son esprit. Inversement, chacun pourra suivre ses communications d'une manière plus intelligente, s'il ne perd pas de vue les continuelles références à la loi et aux prophètes, que ce livre lie avec les éléments du Nouveau Testament. Malgré la salutation propre aux apôtres, grâce et paix vous soit, Dieu nous est présenté dans ce livre tout autrement que dans les épîtres. Celui qui est, qui était et qui vient. C'est une traduction, si on peut parler ainsi, du Jéhovah hébreu dans le langage du Nouveau Testament. Il en est de même de son esprit présenté ici sous forme des sept esprits qui sont devant son trône. Quiconque est familier avec le Nouveau Testament doit être d'autant plus frappé d'une telle expression, qu'ailleurs il est sans cesse question de l'esprit, d'un seul esprit. N'est-ce pas là l'enseignement invariable de Paul ? Le corps de Christ est un parce qu'un seul et même esprit habite dans chaque disciple de Christ, unissant étroitement et constituant en un tout les membres divers. Partout il est le Saint-Esprit envoyé du ciel. Habitant dans le croyant. Distribuant et opérant dans l'Église. Pourtant ici, c'est des sept esprits qui sont devant le trône de Dieu qu'il nous est parlé. D'où cela vient-il? De ce que nous entrons dans une scène de gouvernement et d'actes judiciaires. La céleste parenthèse de grâce est désormais fermée. Elle correspondait au merveilleux déploiement du mystère caché aux générations antérieures, révélant la gloire de Christ en haut et l'union avec lui du chrétien et de l'Église. Même dans la préface, chapitre 2 et 3, où il est question des sept églises et de Christ en relation avec elles, le jugement est le point capital. Et le Saint-Esprit est envisagé selon le caractère de gouvernement que l'Apocalypse dans son ensemble nous révèle. C'est le livre final où tous les systèmes, et l'homme comme tel, doivent être jugés. Les églises sont jugées en premier lieu. Le monde l'est ensuite. Puis les vivants lors de l'apparition de Christ et avant la fin de son règne terrestre. En dernier lieu, les morts sont jugés devant le grand trône blanc. Tout le long du livre ce n'est que jugement. Le Saint-Esprit nous est donc présenté en harmonie avec un état de choses terrestres et judiciaires, repris du point de vue de l'Ancien Testament, mais avec une profondeur caractéristique de la révélation finale et complète de Dieu. Jean parle de cet esprit, expression de la perfection pleine mais variée du Saint-Esprit agissant selon les voies de Dieu développées en gouvernement. Et pour cette raison ils sont désignés comme étant devant son trône. La manière de parler dans les épîtres aux assemblées est remarquablement conforme à ce caractère, ce que l'Esprit dit aux assemblées. Ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le saint ou dans l'Église. Ce n'est pas l'habitation de Dieu par l'Esprit. C'est plutôt comme quelqu'un qui est dehors, qu'il s'adresse ici à elle pour avertir et faire des remontrances. Christ lui-même agit de cette manière. Il n'est pas vu ici comme la tête de l'Église, communiquant la nourriture et chérissant son corps. Bien qu'il soit plus qu'un sacrificateur, il est revêtu des vêtements sacerdotaux, non pas certes en vue d'intercéder pour le croyant et de le restaurer, mais, au contraire, pour le sonder de ses yeux qui sont comme une flamme de feu. Et pour s'occuper de ce qui est contraire à la pensée de Dieu. Il est révélé ici solennellement sous son nom de Fils de l'homme, désignation qui est inhabituelle en rapport avec l'Église. Il va en effet prendre le royaume, et, en attendant, le jugement lui est donné parce qu'il est le Fils de l'homme, Jean chapitre 5. Ainsi le Seigneur a pris la place de juge, quoique le sujet soit les églises. Toute forme de jugement est entre ses mains. Malheur. Qui vivra quand Dieu fera ces choses? Nombre chapitre 24 verset 23. Aussi constatons-nous que la première, et à certains égards la meilleure de ces églises, est menacée d'avoir son chandelier ôté, si elle ne se repent, et s'est-elle repentie? Tandis que la dernière, quoique appelée à se repentir, est positivement menacée d'être vomie de la bouche du Seigneur. Pour ce qui est des églises responsables, la réjection est donc entière et sans espoir. À partir du chapitre 4, un vaste changement s'est effectué. Les rachetés mis à l'abri des jugements terrestres sont glorifiés dans le ciel, et le Seigneur est vu en haut comme un agneau immolé, un Christ rejeté, dans la présence de Dieu et sur son trône. Là aussi l'Esprit est présent, mais de nouveau comme cet Esprit, symbolisé par les sept lampes ou torches de feu, autrement dit encore sous un aspect judiciaire. Le chapitre 5 signale la puissance et l'activité des sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il ne s'agit plus de la prédication de l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et de l'Église pas davantage. Cette mission de l'Esprit sur toute la terre s'accomplit non plus en grâce, mais en gouvernement. Il n'est plus question des Églises après le chapitre 3, excepté dans les exhortations de la fin, et ce n'est plus comme aujourd'hui par leurs moyens que le Saint-Esprit rend témoignage. À partir de ce moment, Dieu est occupé d'autres plans, de plans terrestres, les co-héritiers célestes étant en haut avec Christ. L'Esprit de Dieu agit donc en vue de toute la terre. Cela indique suffisamment le caractère si particulier de l'action du Saint-Esprit dans cette période apocalyptique. La plus grande portion du livre traite de l'intervalle qui prend place entre le moment où les églises ont disparu de la scène, et celui où le Seigneur Jésus viendra du ciel avec ses saints glorifiés, en vue du jugement de la terre. La période de la longue patience prend fin, et les jugements divins commencent leur cours. Sans doute y a-t-il des saints appelés et rendant témoignage. Et il va sans dire qu'il ne pourrait pas y avoir des saints vivifiés sans la puissance du Saint-Esprit agissant par la parole, comme précédemment. Mais quel est le caractère de l'action du Saint-Esprit dans et par ces saints, qui succèdent à l'Église sur la terre? Quelle est la nature de ces communications à leurs âmes? Quelle est l'expérience qu'ils forment au-dedans et quelle est la marche qu'ils leur confèrent? La réponse, dans les termes même de l'Apocalypse, c'est que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Chapitre 19 verset 10. Cela nous permet de comprendre la différence des relations de l'Esprit de Dieu envers ses saints, comparée avec son aspect envers l'Église et le chrétien. Le Saint-Esprit, comme fait actuel et caractéristique, habite dans le croyant comme esprit de communion. Ce que j'apprends en Christ devient ma portion et mon bonheur. J'en jouis comme étant mien. Dieu ne fait pas une seule révélation concernant son Fils, que je n'ai le droit de m'approprier comme consolation de mon cœur. Le chrétien a un intérêt direct dans toute sa gloire. Né de Dieu, ayant le Saint-Esprit qui met le cœur au large, c'est la joie du croyant d'avoir quelqu'un au-dessus de lui devant qui il peut se prosterner et adorer. Hélas, j'en trahis là sa propre faiblesse. Impressionné par la gloire de l'ange qui lui montre ces choses, il s'apprête à l'adorer. Mais le croyant est un adorateur empressé du Père et aussi du Fils parce qu'il connaît le Fils de Dieu, goûte sa grâce et se réjouit dans sa gloire, selon que le Saint-Esprit lui montre Jésus. Dans tous les autres domaines où Christ n'est pas ainsi simplement le Fils, la personne éternelle et divine, l'objet du culte et de l'adoration, il est celui qui, tout en étant au-dessus de nous, se plaît dans son profond amour à partager avec nous sa propre part, tout ce que le Père lui a donné. Ce qu'il a acquis, il le fait contribuer à notre bénédiction infinie par le moyen de l'Esprit de Dieu qui prend ce qui est à Christ et nous le communique. Jean chapitre 16 verset 14. Il glorifie Christ, mais en nous annonçant ce qui est à lui. Il fait déborder nos cœurs de la joie de Christ qui est notre éternelle portion. Dans l'Apocalypse, tel n'est pas le cas. Voyez les saints terrestres du chapitre 6. Ils demandent au Seigneur de juger leurs adversaires. Ils soupirent ardemment après ce qu'ils ne possèdent pas encore. C'est le thème du cantique de Salomon, où il n'est aucunement question de l'Église ni de la relation du chrétien. La position des saints sur la terre après que l'Église a disparu, est telle que le Saint-Esprit n'est que l'esprit de prophétie. Le seul témoignage qu'il rend à Jésus, c'est comme un esprit prophétique, ce qui rejette les fidèles sur l'avenir, sur ce qu'ils doivent recevoir de la main de Jésus lorsqu'il apparaîtra. Il n'en est pas ainsi du chrétien. Et cela nous aide à comprendre la diversité qu'il y a dans les manifestations de Dieu et la bénédiction du Saint. Deux choses sont nécessaires pour me placer dans une véritable bénédiction actuelle. Il me faut un objet qui satisfasse mes affections et dont j'ai la possession. Mais il me faut aussi un stimulant pour mon attente, étant encore dans le corps et entouré d'objets dont Satan se sert pour m'éloigner de Dieu. Il est donc pour moi essentiel que, de même que j'ai Christ comme objet pour mon cœur, je le possède aussi comme mon espérance. Il nous faut ces deux choses qui semblent contradictoires mais qui, en réalité, sont les éléments essentiels de la pleine bénédiction du Saint et de l'Église. Si je n'ai pas devant mon cœur un objet qui puisse le satisfaire, quel exercice ou quel repos peut-il y avoir pour mes affections? Mais le chrétien possède Christ. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit le scelle, lui donne cette onction, lui donne de connaître sa part, de même qu'il est sa puissance pour jouir de Christ et de ce que Christ lui a donné. Comme conséquence, le même Saint-Esprit me conduit à attendre Christ. Nous trouverons cela aussi dans l'Apocalypse, pour nous, non pas pour ceux qui viendront après l'Église. Ce n'est qu'avec l'épouse que l'Esprit dit, « Viens ». Agissant sur les affections de l'Église, il inspire son cri et s'y joint. Il dit, « Viens », parce que celui qui nous aime et qui est vraiment aimé de nos cœurs nous a dit, « Je viens bientôt ». L'Esprit, qui honore sa parole, inspire ce désir et nous fait soupirer après lui. Or celui que j'attends, c'est celui qui aime comme personne jamais n'a aimé, qui s'est entièrement donné lui-même dans son amour. Ainsi j'ai et en même temps je n'ai pas. Ma foi possède dès à présent une pleine bénédiction. Néanmoins, j'ai tout le stimulant que constitue l'espérance qui me fait regarder hors de la scène présente à une pleine satisfaction encore à venir, lorsque Christ m'aura, et que je l'aurai, dans la gloire céleste où il est allé. C'est là précisément ce que le cœur trouve dans le christianisme. Christ est descendu sur la terre et même là où je suis. Il m'a aimé au milieu de ma folie et en dépit de mes péchés. En même temps, il est mon espérance. Je serai semblable à lui, et avec lui là où il est lui-même. Telle est la part caractéristique et exclusive du christianisme. Cela ne pouvait pas être avant la venue de Christ, précisément parce qu'il n'était ni venu, ni pleinement révélé. Cela ne peut plus être après sa deuxième venue. Avant, il ne pouvait être l'objet connu du cœur. Après, il ne pourra plus être l'espérance des saints. À son apparition, une bénédiction pleine et éternelle sera la part des siens, et toute tristesse, toute difficulté s'évanouira. Alors le sentier du croyant sur la terre deviendra un sentier facile, tandis que maintenant l'Esprit de Dieu s'oppose à la puissance de Satan dans ce monde où tout se coalise pour entraver et éprouver l'enfant de Dieu. Mais il possède la foi et l'espérance. Le Saint-Esprit est la source de toute sa puissance. Depuis la rédemption, il habite dans le croyant et dans l'assemblée. Que la portion de l'Église de Dieu est belle. Mais évidemment, quand l'Église s'en sera allée en haut, une telle condition aura cessé. L'Esprit de Dieu vivifiera les âmes comme il le faisait avant d'être envoyé du ciel pour former l'Église, aussi longtemps qu'il y aura des âmes ici-bas, et un Dieu à connaître par une relation vitale, cette œuvre du Saint-Esprit se fera en elle. De plus, l'Esprit, opérant d'une manière appropriée à l'économie, rejettera les saints sur l'avenir. Ainsi le contraste est manifeste. Les saints célestes auront été, juste auparavant, ôtés du monde, alors que les âmes que nous voyons ici sont préparées pour la terre milléniale. Il s'agit d'une période de transition où la forme d'action et de témoignage de l'esprit consiste à diriger les cœurs sur l'avenir qui va être révélé. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus, non le déploiement de la plénitude de la rédemption. Ce n'est pas comme aujourd'hui la puissance qui donne l'assurance à l'âme pour pénétrer au-dedans du voile et y trouver une ancre sûre et ferme, Hébreux chapitre 6 verset 19. Rien dans ces pages ne ressemble à la paix et à la joie que les saints possèdent maintenant en Jésus. Le Saint-Esprit dirigera ses croyants à regarder à Christ pour l'avenir. Ils auront à attendre, car d'autres doivent aussi souffrir comme eux, Apocalypse chapitre 6 verset 11. Leurs soupirs montent devant Dieu. Jusque à quand, Seigneur? Ils attendent celui qui doit venir, et il ne faut pas moins que la toute-puissance de Dieu pour leur donner de croire cela, tant sera grande la séduction d'injustice. Ce n'est pas à l'homme de disputer avec Dieu, ni davantage aux croyants de mettre en question sa parole. Toute notre sagesse consiste à avoir une foi simple dans les Écritures, ce qui a pour effet de mettre du calme dans l'âme, en présence de toutes les questions, de toutes les difficultés, et de tous les doutes qui peuvent s'élever dans nos esprits. Si Dieu a révélé l'avenir, n'est-ce pas pour que nous le connaissions? Il est si peu vrai que le chrétien a assez à faire de s'occuper exclusivement de ses propres bénédictions, qu'au contraire vous le dépouillez d'une portion de son héritage particulier. Si vous l'induisez à abandonner cette connaissance des choses à venir. Non seulement le chrétien possède maintenant la foi et l'anticipation de l'espérance, mais il est ici placé sur une éminence d'où il embrasse l'avenir, plongeant ses regards jusque dans l'éternité même. Quelle position peut être plus large, plus béni que celle d'un chrétien? Oh, comme nous entrons peu dans notre propre bénédiction en Christ. Combien peu nous la connaissons? comme nous en jouissons peu. Les saints apocalyptiques n'auront pas cela, mais un témoignage prophétique leur sera donné de la part de l'Esprit de Jésus. Et ce qui confirme la distinction que nous venons de faire, c'est que le Saint-Esprit, dès que la prophétie est terminée, nous est présenté s'unissant à l'espérance de l'épouse qui est l'Église. L'Esprit et l'épouse disent, « Viens !» Et que celui qui entend dise, « Viens !» Chapitre 22 verset 17. L'Esprit guide l'Église et stimule ses affections. La place même où cette action de l'Esprit se trouve rapportée, tout à la fin du Saint-Livre, la rend plus frappante encore. En effet, après avoir traversé le cours entier des voies de Dieu envers l'homme jusqu'à leur dernier terme, après le jugement final devant le grand trône blanc, après avoir évoqué les nouveaux cieux et la nouvelle terre, la joie propre du chrétien aurait pu être tant soit peu diminuée pour avoir été tellement occupé de prophéties. En vérité, une étude pareille serait bien faite pour abattre l'esprit et le cœur, s'il n'y avait pas pour contrepoids une espérance céleste. La prophétie toute seule tend à produire un effet terrestre sur l'âme du chrétien, et elle peut nous conduire à gaspiller l'énergie spirituelle destinée à Christ, à l'Église et aux âmes. Si nous lâchons la bride à notre esprit et donnons essor à notre imagination, en nous occupant avec curiosité de minutieux détails au sujet du jugement terrestre. Dans la mesure où, de ce fait, Christ et l'Église sont exclus de nos pensées, une telle manière d'étudier la parole est positivement nuisible à l'enfant de Dieu. Mais remarquez comment le Saint-Esprit a pourvu ici à ce danger relativement à l'Église. Nous pouvons parcourir toutes ces visions prophétiques que Jean a écrites pour nous et y voir un tableau complet de l'avenir, concentrant les lumières éparses dans le reste des Écritures. Ceci fait, l'Esprit prend soin de changer le courant de nos pensées. Il détourne nos regards des scènes terrestres et les fixe sur notre propre objet à nous, Christ. Avec lui nous quittons la région inférieure de la prophétie, et nous retournons à ce qui convient mieux au cœur renouvelé dans ses affections les plus vraies pour son propre et céleste objet, Christ en haut, et qui va revenir. Que le Seigneur nous accorde de jouir, avec une paix toujours plus profonde, de cette merveilleuse lumière que nous donne la parole de Dieu au sujet du Saint-Esprit. Il daigne être en nous, pour l'amour de Christ, et cela à cause de son estimation tant de Christ lui-même que de cette rédemption qui est notre fondement immuable devant Dieu. Puissions-nous ne pas seulement apprendre davantage au sujet de l'Esprit, mais, guidés par lui, avoir nos cœurs fortifiés, pour jouir par lui, en Christ, notre Seigneur, de tout ce qu'il a plu à Dieu de nous révéler dans sa précieuse parole.